En pleine négociation, Raphaël, Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, s'est exprimé dans une interview évoquant Emmanuel Macron et Donald Trump.
Oui, Piotr Tolstoï, qui est une des voix aussi de la Russie dans certains médias, notamment en Occident. Et il y a une interview qui est parue dans Valeurs Actuelles où Piotr Tolstoï répond notamment aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron, ou en tout cas à des pseudo-déclarations. Il qualifie d'ailleurs le discours d'Emmanuel Macron, je cite, de fanfaronnade. Alors, il évoque l'idée qui n'a jamais été évoquée d'envoyer des soldats français, notamment sur le front ukrainien. Alors, en réalité, on précise que ça, c'est un projet uniquement en cas de paix. Et il a jamais, voilà, donc il a jamais été question d'envoyer des soldats, pardon, sur le front.
Oui.
Jamais. Il faut rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couverts par le tricolore. Et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences.
Voilà, c'est une interview effectivement qu'il avait donnée à BFM TV. Et Piotr Tolstoï qui évoque également le rôle de Donald Trump.
Oui, et il évoque Donald Trump, je cite, comme un businessman qui a décidé de faire un deal. Alors là-dessus, je pense qu'on peut partager ce point de vue. Mais il ajoute aussi que Trump est concret, je cite, comme un agent immobilier. Alors sans faire offense aux agents immobiliers, on imagine que ça peut montrer un manque de confiance. En fait, il évoque des réponses aux promesses de Trump selon lesquelles l'OTAN n'intégrera pas l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN et la Russie conservera des territoires conquis. Il y a d'autres phrases, notamment que les Américains et les Européens ont utilisé toutes leurs cartes. Et selon lui, 85% des Européens ne comprennent pas ou ne savent pas que l'Ukraine a jamais été un État indépendant.
Merci Raphaël.
Je voudrais juste rappeler sur ce qu'a dit Tolstoï, ce qui est intéressant, on aurait pu lui rappeler à Tolstoï que les Russes, certes, ont tenu et ont battu les Allemands grâce à 295 milliards en euros 25 d'aide par les Américains à la Russie. C'est intéressant de le rappeler quand même.
Et les Allemands ont gagné en 40
milliards
grâce au tract germano-soviétique.
Comment ?
Il faudrait quand même rappeler aussi que le pacte germano-soviétique d'août 1939 a permis la victoire allemande rapide.
Bien sûr.
La Pologne et sur la France.
Personnage très particulier, Piotr Tolstoï. Quel crédit il faut apporter à ces menaces quand il dit si vous envoyez des soldats au sol, ça veut dire que l'Europe sera en guerre directe avec la Russie, si les Français et les Britanniques protègent directement l'espace aérien de l'Ukraine,
Il faut être prudent, faire attention à tout, mais là, on a quand même le sentiment d'un battleur d'estrade manipulé par le Kremlin.
Paul Gogo, c'est vrai que pour comprendre ce qu'il dit, il faut comprendre aussi qui et ce personnage, je disais qu'on avait interviewé sur BFM. Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très déroutant, qui est très virulent à l'égard de la France, qui a un franc-parler qui est à mille lieues de la plume de son ancêtre, Léon Tolstoï.
On ne rappellera pas son passé, mais il y a quand même une période, il y a 20 ans, où les correspondants français faisaient des soirées chez lui à Moscou, parce que lui-même travaillait pour la presse française et qu'il était totalement libéral et qu'il adorait l'Europe. Ce monsieur, aujourd'hui, est député, il gère les relations internationales au Parlement et il a l'avantage pour le Kremlin de blanchir la propagande en langue française. Clair que quand on diffuse ses propos dans un média en France, c'est plus puissant, ça touche plus les gens parce qu'il les dit en français. C'est quelqu'un d'imposant, il est très grand, il en impose ce qu'il s'écrit.
Si le talent n'est pas héréditaire, le nom est connu quand même.
Exactement, oui, et ça l'a certainement aidé, sans lui faire offense, sa carrière. Alors en France et puis dans sa carrière en Russie.
Mais cette théorie, on le voyait dans l'extrait qui était diffusé sur des présumées intentions belliqueuses de la France, où il y a cette analogie entre ce qui est expliqué par Emmanuel Macron, c'est on n'exclut rien, et des troupes européennes en cas de paix pour préserver l'accord de paix. Il y a une analogie et un mélange qui est fait avec la volonté de la France d'envoyer des soldats sur le front. C'est souvent une théorie qui est fausse, mais qu'on retrouve aussi fréquemment dans la propagande russe.
Et Poutine l'avait déjà utilisé en rappelant l'affaire de Napoléon.
Qui infuse parfois en France aussi.
Ouais. Et puis parce que des fois, c'est agrémenté de propagande, de fake news. Moi, les Russes me disent souvent, mais il y a des milliers de mercenaires français en Ukraine en ce moment. Mais heureusement, on en a tué 999 de ce millier de mercenaires français. Donc j'essaie de leur expliquer, mm-hmm. non, c'est pas vraiment le cas. Mais la télévision leur raconte ça, en fait. Donc ils sont convaincus que de toute façon, il y a déjà des milliers de Français qui sont sur le front en Ukraine.
C'est pour cela que pour Poutine, ça va être difficile de digérer un cessez-le-feu. Parce qu'il a convaincu sa population depuis 3 ans et demi que c'était l'Ukraine le méchant, que c'était eux les nazis. Et aujourd'hui, il faut faire un cessez-le-feu avec les nazis, c'est difficile.
Mais est-ce que ça ne va pas être compliqué aussi de justifier derrière, s'il n'accepte pas le cessez-le-feu, d'être du coup celui qui
n'accepte
pas la paix ?
Vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis des Occidentaux,
mais même
oui.
Même vis-à-vis de sa population ?
Bah, la population russe, de toute façon, elle fera ce que ouais. dit le... Ouais. Le chef du Kremlin, pour être gentil. Donc, si vous voulez, non. De toute façon, même s'il y a une opposition très probablement chez les ultranationalistes russes, qui vont dénoncer tout accord de paix et qui vont dire il faut aller jusqu'au bout et jusqu'à Kiev et renverser Zelensky, à un moment donné, si Poutine veut la paix et négocie avec Trump, ne l'oubliez pas, la fin des sanctions, c'est ça. On parlait des concessions possibles. Pour Vladimir Poutine, l'enjeu, le trophée, c'est la fin des sanctions occidentale et américaine en particulier, contre la Russie. S'il obtenait cela, après avoir été réadmis comme interlocuteur avec l'Amérique, ça serait une grande victoire. Et c'est ce que redoutent d'ailleurs le plus les Ukrainiens. On n'en est pas là, hein, mais c'est ça qu'il a en tête, c'est vraiment l'objectif final.
Avec des lignes rouges, et on l'a réentendu, qui sont assez claires du côté des Russes, hors de question d'envoyer des troupes au sol, des troupes européenne. Alors à voir si effectivement si c'était dans un autre cadre, ce serait peut-être différent. Mais ce que dit Piotr Tolstoï, il dit mais en fait c'est ne rien comprendre à notre façon de fonctionner, parce que si précisément on a lancé cette guerre, cette opération spéciale, si je reprends le langage russe, si on a lancé cette opération spéciale, c'est précisément parce qu'on ne refusait l'arrivée de soldats de l'OTAN en Ukraine. Donc il dit vous n'allez pas nous envoyer des troupes, c'est inacceptable chez nous. Donc on voit bien que même si une trêve pouvait se négocier ce dealer, de toute manière, ça coincerait dans l'étape suivante qui serait les négociations de paix avec les garanties de sécurité demandées par les Ukrainiens.
Très sûrement. Et puis cette affaire d'absence de troupes otaniennes, ça, c'est aussi le discours de Poutine et une des raisons pour lesquelles Poutine lance son opération militaire spéciale. Donc ça va en contradiction de toute cette logique de la guerre du côté russe. C'est pour ça qu'on est très très loin d'arriver à la paix, évidemment. Et je crois que peut-être Poutine peut accepter un cessez-le-feu, parce que finalement, c'est dans son intérêt de le faire. On a bien vu que ça lui profitait davantage qu'à Zelensky. La paix elle-même, je crois, ne l'intéresse pas vraiment. D'abord, je crois que là, c'est Tolstoï, je crois, le même Tolstoï qui disait notre ADN, c'est la guerre. Et je pense qu'il le pense. Et passer d'une nation qui est vraiment rentrée en guerre et une nation en paix, poserait des problèmes. L'économie russe tourne aujourd'hui autour de la guerre. Et la transformer à nouveau poserait des problèmes économiques importants. Le niveau de vie a augmenté, il rebaisserait. Enfin, on voit bien que la paix serait peut-être tout à fait dangereuse pour Poutine lui-même en tant que dirigeant de la Russie. Donc, le cessez-le-feu peut-être, aller plus loin, ce sera encore peut-être beaucoup plus difficile.
C'est là où on se trompe, c'est qu'en fait, il n'a pas intérêt, Vladimir Poutine, à la paix. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à le prendre et à négocier, enfin, en tout cas, à entamer des négociations avec lui, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs.
En tous les cas, il peut faire supporter à son pays et faire accepter à l'opinion de son pays une négociation interminable, à négociation de type Corée du Nord, Corée du Sud, pendant laquelle... qui a duré, je crois, deux ans, pendant lesquels les bombardements se poursuivaient. Et même chose, vous l'évoquiez d'ailleurs, pour les négociations sur le Vietnam. Poutine peut en effet accepter un cessez-le-feu et prendre son temps. Ce qui me passionne le plus dans cette affaire, pour être très franc, c'est la réaction européenne et la prise de conscience européenne de la nécessité de travailler ensemble, de s'engager. Si on fait cela, ça change quand même beaucoup de données à moyen et long terme pour notre continent.
Alors justement, on va regarder, Yves Tréhard, cette réunion très importante qui s'est jouée aussi à Paris. Emmanuel Macron, entouré des plus hauts responsables des armées d'une trentaine de pays de l'Union européenne et de l'OTAN, sans les États-Unis, il y avait notamment le Canada, il y avait la Turquie, il y avait le Royaume-Uni qui était invité.
Et en dehors de l'OTAN,
réunion aux airs de sommet diplomatique dont l'enjeu est précisément de préparer la seconde étape, donc après cette trêve, si tant est qu'elle soit acceptée, de discuter d'un plan de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Mais là encore, il faut se mettre d'accord parce qu'on n'en est pas là.
C'est pas la garantie de sécurité qui est à l'orée du jour aujourd'hui. C'est de savoir si on peut suppléer une OTAN sans les États-Unis. Il est là le sujet. Parce que la garantie de sécurité, il faudrait d'abord que Poutine accepte le cessez-le-feu qui a été décidé aujourd'hui. Et je vous entendais dire que la balle est du côté de Poutine. Mais il n'est pas du côté de Poutine, la balle. Elle est du côté de Trump, qui va avoir un mal de chien.
Et c'est ce que dit Washington ce soir, en disant la balle est dans le camp des Russes.
Qui va être obligé de faire des concessions terribles pour essayer d'obtenir l'aval de Poutine. Et comme Poutine, non seulement a intérêt à la guerre, ça je suis tout à fait d'accord avec le général Desportes, et deuxièmement, comme il est dans le mensonge permanent, il ne va absolument pas respecter le cessez-le-feu. Il va essayer de pousser son avantage, comme il a toujours fait.
Avec quand même un élément très important qui est ressorti de cette réunion aujourd'hui avec les chefs d'état-major, visiblement les participants se sont accordés, parce que c'est quand même l'objet, c'était de discuter aussi des garanties de sécurité, se sont accordés pour que les garanties de sécurité ne soient pas disjointes de l'OTAN. Alors, pour quelle raison ?
Pour une raison simple, une raison technique. Il faut comprendre que l'OTAN, c'est une architecture américaine dans laquelle on vient pluguer des armées nationales. Mais que sans cette architecture, cette colonne vertébrale américaine, eh ben ça fonctionne pas du tout. Donc, tant qu'on n'aura pas remplacé cette colonne vertébrale en termes de capacité de renseignement, de planification, etc., on ne peut pas fonctionner sans les Américains. Donc, on peut pas lâcher les États-Unis comme ça. Il faut forcément une période de transition.
Là, c'est les États-Unis qui nous lâchent, en l'occurrence. C'est ça la crainte.
Non, mais c'est pour ça. Ouais. Non, mais d'accord. Mais c'est bien pour ça. On a besoin de l'OTAN. Pour l'instant, on rappelle toujours l'OTAN. On n'a pas cassé avec vous. Et pendant ce temps-là, il va falloir qu'on arrive à créer notre autonomie. Mais on en est très loin. Cette dépendance des armées européennes vis-à-vis des États-Unis est organisée depuis les années 92-93, les années Clinton. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous battre comme ça. Sans eux. Et donc, on a besoin de rester accrochés à eux tant qu'en biseau, on n'aura pas créé cette autonomie de défense qui n'existe
personne
pas.
Personne n'a claqué la porte pour le moment. Non. Ni les Américains, non. Ni les Européens. Non. Donc, il est sûr que ça va continuer, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des précautions.
Enfin, les Américains n'ont pris aucun engagement en termes de garantie de sécurité, de fameux backup.
Il y a des précautions à prendre du côté européen et il est heureux de les prendre aujourd'hui.
Et les Européens aussi, les Norvégiens, les Polonais ont sûrement appuyé pour que ça soit inscrit clairement.
Gérard Longuet, en termes de communication, le fait que les Européens insistent sur la nécessité d'une garantie américaine, est-ce que ça abîme pas aussi leur crédibilité vis-à-vis de la Russie ?
Les présidents américains changent et l'OTAN reste. Et j'ai écouté le général Desportes, je partage son sentiment. Non, on a techniquement besoin d'eux. Mais les militaires américains ont également besoin de livrer cette prestation. Parce que s'ils ne livrent pas cette prestation, ils perdent, c'est l'OTAN dirigé ou sous influence américaine qui perd sa légitimité.
Bien sûr.
Donc la position de Trump n'arrange pas les militaires qui tiennent l'OTAN, parce que ça désavoue leur vocation. Donc je pense qu'ils trouveront un compromis. On a fait l'affaire libyenne avec le soutien technique de l'OTAN, sans la participation américaine. Les Américains disent, on a déjà suffisamment de soucis ailleurs, c'est pas la peine d'y aller.
Mais vous avez parfaitement raison, monsieur le ministre, mais moi, je me rappelle quand même que cette guerre-là, qui était une guerre franco-britannique, elle a commencé par les frappes d'avions américains. Pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas, nous, en Europe, d'armes, c'est ce qu'on appelle SIA, c'est-à-dire Suppression of Enemy Air Defense. Et que donc, nos rafales ne pouvaient pas aller détruire.
Ils y sont allés.
Au départ. Les deux premiers jours de guerre, ce sont les avions, et après, on fait. Et ça, c'est un grand manque. Par exemple, aujourd'hui, on n'a toujours pas le dernier missile français capable de détruire des radars. On ne l'a plus depuis 97. Je parle sous votre contrôle, monsieur le ministre. Mais donc, ça fait partie des choses qu'on a.
Oui, on s'est mis pendant des années entre les mains des États-Unis, en se fournissant chez eux.
On s'est mis sous la main. Vous avez parfaitement raison. Mais quand les Américains, moi j'ai servi la France 5 ans aux États-Unis, quand les Américains parlent de l'OTAN, ils disent pas nous dans l'OTAN, ils disent vous dans l'OTAN. C'est-à-dire que pour nous, l'OTAN c'est extrêmement important. Pour les Américains, c'est un des 6 grands commandements américains. Donc là aussi, on a une perception de l'OTAN qui est très différente, nous, de celle que les Américains ont pour cette organisation.